C'est Linda Ronstadt en attendant Remue Ménage, 17h-18h30 sur Radio Zone 93.8. Remue-ménage, c'est Ondes Femmes sur Radio Zone 93.8 tous les mercredis en direct de 17h à 18h30. L'émission est rediffusée le jeudi à 10h et 15h. Remue-ménage sur Radio Zone 93.8. Bonjour et bienvenue sur Remue Ménage en ce mercredi après-midi où il a fait un soleil resplendissant, ça nous donne un peu d'énergie. Ce mercredi sera un mercredi un peu spécial puisque nous allons passer ce temps en compagnie de nos amis belges de Radio Bulle à Namur. Et oui, nous avons reçu trois messages, trois histoires de femmes belges. Et elles sont très différentes, vous verrez les unes des autres. Certaines très drôles, certaines... des choses que l'on partage fortement avec elle, et puis des choses moins drôles, des interdits qui règnent encore, et c'est incroyable d'imaginer que cela règne encore aujourd'hui. Alors voilà, dans quelques instants, nous retrouverons notre premier message de Radio Bulle à Namur en Belgique, mais en attendant, beaucoup de musique, et aujourd'hui il y en aura beaucoup de la musique. D'abord, nous devons tout nous dire avec Françoise Hardy.
Vous rentrez par les yeux.
aussi, cet après-midi, on aimerait tout vous raconter sur Romy Ménage Radio Zone 93.8. Et on espère que peut-être une fois, c'est vous qui aurez quelque chose à nous raconter. On vous le disait la semaine passée, nous manquons par exemple de quelqu'un qui nous aiderait à faire la technique dans le studio. C'est bouger des boutons, mais c'est aussi s'intéresser à manier les mots, la musique. Si quelqu'un a envie de participer à la technique à Romy Ménage, n'hésitez pas, téléphonez-nous maintenant, pendant l'émission jusqu'à 18h30, au 50 40 51 41 023, si vous appelez depuis la Suisse voisine. Et puis il y a tout ce qu'on a envie de vous dire qui nous importe à propos des femmes, à propos de ce que nous faisons comme femmes. Alors aussi, vous pouvez nous suggérer bien sûr plein d'idées qui feront l'objet de plein de belles émissions sur Remue Ménage Radio Zone 93.8. Là tout de suite, j'ai eu envie de vous passer deux fois la même chanson, ça paraît un petit peu bizarre. Et pourtant, quand j'ai entendu ces deux versions, enfin plutôt j'ai entendu une nouvelle version et je me suis rappelée de l'ancienne version. Et alors je vous propose d'abord la version originale et je vous ferai écouter ensuite la nouvelle version. Vous reconnaîtrez que la nouvelle version n'a rien à vraiment envier. En tout cas, elle tient la comparaison avec la première version originale, Janis Joplin. Et maintenant, la version 89 avec Nina Hagen. Alors, c'était Nina Hagen dans un remake des chansons de Janis Joplin. Faut lui laisser qu'elle a bien reporté cette voix forte et magnifique de Janis Joplin en la mettant à sa sauce. On reconnaît depuis longtemps la vigueur vocale de Nina Hagen. Ce dernier disque qu'elle a fait d'ailleurs comprend plein de belles chansons, des chansons assez incroyables d'ailleurs qui sont aussi des chansons très traditionnelles. Par exemple, ni plus ni moins, elle chante un Ave Maria de Schubert à sa façon. Mais on vous fera entendre ça une autre fois, on se réserve les petites gâteries d'une semaine à l'autre. Alors maintenant, voyons notre premier rendez-vous, notre première histoire de femme. Je vous le rappelle, réalisée par des femmes de Radio Bulle à Namur, en Belgique. Cette émission passe tous les samedis matins. Si jamais une fois vous êtes dans la région, branchez-vous sur Radio Bulle à Namur le samedi matin. Alors qu'en est-il des histoires de femmes en Belgique? Eh bien, en l'occurrence, notre première histoire de femme qui nous est racontée par Anne Magersman, qui a rencontré Oreste Syndrome. Oreste Syndrome est une femme qui nous raconte une histoire de mère de famille. Elle était elle-même mère de famille, bien évidemment. Et puis, elle s'est heurtée à la réalité du fait d'être mère de famille. Jusque-là qu'elle n'avait que lu dans la théorie. Et elle en a eu marre de constater que la théorie ne correspond jamais à la réalité. Et à partir de là, elle a écrit un livre qui s'appelle « L'eau ferrugineuse ». Elle vous l'expliquera qu'il faut consommer à petites gouttes parce que ce n'est pas particulièrement délicieux. Alors, parole à Oreste Syndrome, interrogée par Anne Magersman dans une histoire de mère de famille belge.
D'abord, être une bonne mère, ça n'existe pas. Ça, il faut se retirer ça de la tête. D'ailleurs, Freud l'avait dit, on le cite toujours, mais on ne le croit jamais. Hein, quand il dit, il y a deux tâches impossibles, c'est gouverner et éduquer. Bon, et aussi, cette phrase qu'on cite tout le temps de la mère qui lui demande bon, des conseils, à qui il répond, faites comme vous l'entendez, de toute façon, ça sera mal. Apparemment, il y a un cocktail pour réussir l'éducation des enfants. Et bon, on met un petit peu de Piaget, un petit peu de Montessori, un petit peu de Freud, un petit peu de Lacan, un petit peu de Dolto. Et puis, il doit y avoir un ingrédient magique que moi, j'ai pas trouvé. Et un jour, comme ça, j'ai dit que ça pouvait être l'eau ferrugineuse. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est pas très très bon finalement à avaler et qu'il faut quand même se farcir. Mais pas à trop haute dose. C'est pour ça que j'ai dit non, l'eau ferrugineuse, non. Avant, c'était un simple tube digestif. Maintenant, c'est l'enfant, le bébé roi, le bébé qui sait tout, le bébé qui vient au monde avec Lacan, le livre de Lacan à la main. Bon, donc tout cet aspect-là, je pensais le connaître parfaitement, hein, parce que j'ai beaucoup travaillé sur cette question. Et quand j'ai eu des bébés, ils ne réagissaient pas tout à fait comme ça, loin de là même. Bon, alors il y a eu certainement un petit agacement contre tous ces livres, en règle générale, donc qui sont tout à fait bébolâtres, et d'autre part aussi sur les maternités tardives, qui sont présentées comme quelque chose de tout à fait miraculeux et de tout à fait extraordinaire. Alors moi, plus j'avançais avec mes enfants, plus je découvrais de difficultés, plus j'étais agacée par le ton de plus en plus triomphaliste, de plus en plus bébolâtre qu'il y avait dans la littérature. Bon, alors par exemple, dans tous les livres que l'on lit, il y a comme ça tout un parcours balisé, absolument idéal. Par exemple, il y a la grossesse. La grossesse est un moment absolument fantastique où la femme doit se concentrer sur cette grande aventure qui lui arrive. Bon, moi, je ne me suis pas concentrée du tout parce que je n'avais pas le temps. Je veux dire que la vie continuait pendant ce temps-là et tout d'un coup, je réalisais que je n'avais pas pris ce temps fabuleux pour discourir avec mon bébé puisque maintenant, on doit leur parler. On doit également peut-être aller chanter des cantates de Bach parce que le nourrisson entend. Alors, à chaque fois que j'entendais un marteau-piqueur, je me disais, mon Dieu, Dieu, le pauvre malheureux, il entend le marteau-piqueur, il entend pas la cantate de Bach que j'avais jamais le temps d'écouter. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Il y avait l'aptonomie, il fallait faire donc une espèce de gymnastique avec son nourrisson qui fait que le nourrisson monte et descend dans le ventre. Moi, ça, j'ai jamais eu le temps ni le loisir de le faire. Alors, on se culpabilise un petit peu aussi, hein. On se dit, ah mon Dieu, j'ai pas fait tout ça.
Babidop pour les bébés, babidop et doux.
Il y a l'accouchement dont on vous dit que maintenant il doit se passer évidemment sans violence, mais il doit se passer par exemple au son de la musique, dans une atmosphère feutrée, bon, on reste avec ses habits de ville, on n'est pas forcément allongé, on est entouré de ses amis, le père est absolument là, tout ça, ça se passe dans une atmosphère tout à fait de crèche, hein, de nativité. Bon, ben moi, ça s'est passé, j'avais dans ma tête, j'avais préparé des tas de choses, et puis finalement, j'ai eu une césarienne, j'étais endormie, toc, je me suis réveillée, j'ai eu mon bébé, on me l'a apporté comme ça, tout habillé, alors qu'on vous dit qu'il faut le laisser sur le ventre, il faut faire du pot à pot, parce que c'est très important. Tout son avenir se joue dans ces quelques minutes extraordinaires où le père le baigne, où la mère a un contact comme ça, physique, charnel avec son nourrisson. Bon, bah, résultat, moi, je me suis réveillée, j'avais mal au ventre parce que j'étais opérée, mon bébé était déjà dans sa gigoteuse, je pouvais à peine le toucher, je pouvais pas le prendre dans mes bras, j'avais peur de le laisser tomber. Donc tout ça, ça marchait pas. Et puis alors, bon, il y a aussi un must tout à fait, c'est l'allaitement. Hein. L'allaitement, à la demande surtout, hein. pas de biberon comme ça à heure fixe, mais au contraire, allaiter son nourrisson, dès qu'il pleure, on le prend dans ses bras et on le nourrit. Alors bon, ça pose un certain nombre d'ailleurs de problèmes qui sont généralement gommés et passés sous silence. Mais enfin, moi, est-ce que c'était la césarienne? Est-ce que c'était que j'avais pas fait le pot à pot? J'en sais rien, que j'avais pas fait l'aptonomie, que j'avais pas suffisamment disserté avec mon fœtus, panne de lait. Donc, j'ai pas pu l'allaiter suffisamment longtemps. Alors, je me sentais effectivement très, très coupable et très malheureuse parce que j'obérais tout son avenir. Il y a des modes en pédiatrie. Il faut bien se rendre compte qu'il y a des modes. Alors, par exemple, lorsque j'ai eu mon fils, il fallait coucher les bébés sur le ventre. Parce que, bon, ça évitait la régurgitation, il ne s'étouffait pas, etc. Bon, et lorsque je suis arrivée avec ma fille, donc 2 ans après, chez le pédiatre, avec ma fille couchée sur le ventre, hurlement du pédiatre, mais madame, on ne couche pas les bébés sur le ventre, vous vous rendez compte, ça va leur écraser le nez, c'est très mauvais, on s'est aperçu que c'était très mauvais pour leur cervicale, on les couche sur le côté, 5 minutes d'un côté, 5 minutes de l'autre, et comme ça, bon, ils ont les cervicales bien alignées, ils ont les nez bien droits. Bon, alors ça, c'était, la mode, le diktat de la mode pédiatrique avait changé en 2 ans.
Petite maman de bonheur, avant mon premier pas de tout petit enfant, tu étais, vois-tu, maman, toute ma terre de tout petit enfant. Où faire mes premiers pas? Tu me l'offrais, maman.
Quand on a des enfants jeunes, bon, il y a toute la série des mésaventures avec les médecins. Alors, les premières mésaventures, moi, ça a été la peau. Hein, les bébés ont une peau très fragile et pourtant, Dieu sait si j'employais des paillettes bio et pas de lessive, etc. Mais bon, j'ai eu très rapidement à avoir comme ça des problèmes avec les médecins parce que bon, il y a soit la catégorie de pédiatre un peu bourru qui allons, mais ça va s'arranger, mais vous êtes inquiète, mais non, c'est pas grave, mais va bien votre nourrisson, mais regardez, il est superbe. Alors quand je disais, mais enfin, vous trouvez pas ça gênant un petit peu, ces croûtes vilaines là qu'il a sur les épaules? On me répondait, bon, c'est gênant pour qui? C'est gênant pour vous, regardez, lui, il a l'air malade. Alors évidemment, le bambin n'avait absolument pas l'air malade. Alors ça, c'est le pédiatre ancien modèle. Hein. Mais il y a aussi le nouveau pédiatre, psychanalysé à tout va, qui... alors lui, on a l'impression qu'il se fiche complètement. Alors de la mère, complètement. Elle n'existe absolument pas. Elle est simplement là pour lui apporter, pour mettre jusqu'à sa portée le nourrisson. À la limite, il ne s'adresse même pas à elle. Il discourt savamment avec le nourrisson, ce qui est assez curieux quand même quand on lui amène un nourrisson de 4 mois et qu'il lui parle longuement, qu'il lui pose des questions. Alors on se dit, est-ce que je dois répondre est-ce que je dois répondre il en parlant de lui ou est-ce que je dois répondre je en étant une mère ventriloque? Parce qu'on a l'impression qu'on ne compte absolument pas. Il explique longuement ce qu'il va faire. Je vais te rentrer ce petit tuyau dans l'oreille pour regarder ta petite oreille, ton petit conduit auditif. Non, ça ne va pas te faire mal. Enfin, juste un petit peu. Tu vas ressentir peut-être un petit peu de froid dans l'oreille. Bon. Et comme ça, il parle et il se soucie beaucoup plus de l'univers psychologique de l'enfant finalement que de l'affection généralement bénigne pour laquelle on est venu consulter.
C'est la fin, comme disait notre petit ami, fils de Madame Oreste Syndrome, nous pouvons imaginer. C'est la fin de notre première histoire de femme belge, qui j'espère vous a plu. Et vous avez réalisé que, apparemment, les mères de famille belges ont les mêmes problèmes que nous. Enfin, si jamais vous avez des expériences de maman suisse à partager avec nous, n'hésitez pas, ou de maman française, pour rien au monde, n'hésitez à nous faire partager vos histoires de pédiatre, vos histoires de bouquins, où vous ne savez plus si vous devez regarder à la page 10, à la page 20, si vous devez écouter tel, un tel. Bref, enfin, et suivre quelle est la dernière mode éducative. En ce qui nous concerne, eh bien, nous provoquerons peut-être une fois un débat sur la question, mais et ce que nous a raconté Oreste Syndrome nous convient très bien. Au micro d'Anne Magersman de Radio Bulle de Namur en Belgique.
Si un canto que crece canción del sur. Alumbra la corteza de mi región y mi pueblo la espera. Oye por toda América ya suena el tambor. Escucha el canto hermano que sabe a miel. Y a mi patria mestiza fiel. Y si el grito se siente, brotarán las simientes en tu corazón. Canta, no dejes que muera, que cielos nuestra canción, pájaro liberado que busca amor, ¿quién encontrará la mano del indio marginado y del labrador? En el llanto materno la encontrará. Del niño que busca pan, en la sangre minera, yeah.
C'était Mercedes Sosa, Tiempo de Libertad, temps de la liberté. Je crois que c'est un thème d'actualité. Alors nous passons maintenant à notre deuxième histoire belge, belge sur Radio Bulle à Namur, qui passe tous les samedis matins en Belgique. Chez nous, ce sera le mercredi après-midi, parce que je pense qu'on aura d'autres rendez-vous avec les femmes belges. Mais pour notre deuxième histoire d'aujourd'hui, c'est une histoire effectivement qui n'est pas aussi relaxe et drôle que celle de la mère de famille. Puisque c'est une histoire de celle de l'interdiction de l'avortement. Et oui, aujourd'hui, les femmes belges ne peuvent toujours pas avorter librement dans leur pays. Elles n'ont donc qu'une seule solution, aller se faire avorter à l'étranger, en Hollande principalement. Et pour cela, beaucoup d'entre elles utilisent l'aide d'un passeur qui, lui, a les contacts et qui les emmène chez le médecin qui pratiquera l'intervention. Il essaye, et oui, semble-t-il qu'il essaye de leur remonter le moral, comme... Le passeur que nous allons entendre nous raconte, entre autres comme il l'a raconté, au micro de Françoise Nice de Radio Bulle. Alors nous écoutons non pas la femme, mais pour une fois, le passeur.
Glissant sous les ponts d'Amsterdam, sur un bateau mouche hollandaise, les éclopés de la Belgique, nous les mamselles, nous les madames, les maladroites et les niaises, les distraites et les abusées. On a fait ne vous en déplaise, la croisière des nanas avortées, des nanas avortées.
De la direction systématique de l'étranger, c'était, on allait principalement en Hollande, et alors notre présence était nécessaire parce que bon, on avait des contacts effectivement, mais on était essentiellement là pour soutenir un peu le moral, je veux dire, et pour que ça soit pas la terreur permanente.
C'est pas romantique le vapeur.
À l'aller, eh bien, le silence, ou quelques paroles comme ça qui avaient l'air un peu futiles, un peu anecdotiques, mais c'était l'enfermement de la femme dans sa terreur, dans sa peur, aussi ce sentiment d'illégalité, hors la loi, enfin, il y avait tout cela qui se mêlait, beaucoup de silence à l'aller.
Le long des canaux d'Amsterdam, le son du trilingue blabla, guidait sa cheveux plat, nous les mamselles, nous les madames, celles qui voulaient se libérer, et celles qui n'en parlaient pas, on a fait en riant ou pas, la croisière des pauvres nanas, des pauvres nanas.
On essayait de décrisper, mais c'est vrai que c'était pas. Et ce sentiment d'illégalité, on le vivait nous aussi, et c'était ça qui était insupportable, en fait. Et au retour, le silence était à peu près le même, il n'y avait plus de terreur, mais il y avait un vide total dans les yeux de ces jeunes femmes. Il y avait, je dirais presque, il y avait un dégoût, parce que vivre cela dans ces conditions n'avait rien de drôle, même si ça se passait dans des conditions hospitalières parfaites. Pour moi, et pour les autres, c'était, on avait le sentiment, et je l'ai toujours maintenant, qu'il fallait ne pas seulement dire qu'on était pour l'avortement libre, dans des bonnes conditions psychologiques et hospitalières, mais qu'il fallait permettre que ça, enfin, rendre possible cela. Et donc il y avait des médecins courageux qui prenaient, des équipes médicales qui prenaient des risques. Nous étions tout simplement là en tant qu'aide, mais on était... On n'était pas fiers non plus. Hein.
40 ans ou 16, c'est le même lot, le même malaise. Amsterdam sur eau, tulipes et vélo. Je m'en souviendrai.
Thank you. Elle m'a dit, c'était un jour blanc. Le soleil découpait de ses rayons froids les toits, les façades, les pavés. On était encore loin du printemps, c'était un jour net. Elle aurait voulu dire « je ». Elle n'a pas pu. Elle m'a demandé de la rapporter. Au sous-sol, la petite pièce s'est refermée comme un œuf. Blancheur clinique et sceau du secret, elle y a retrouvé deux officiants. Elle les avait déjà vus, ils avaient partagé sa raison, ses déraisons. Ils avaient tenté de l'aider. Ce jour-là, il enfila ses gants. Ses gestes et ceux de son assistante étaient plus veloutés encore qu'à l'accoutumée. Douceur, prévenance, silence, atmosphère de machination. Elle m'a dit, je n'avais ce jour-là qu'une seule consigne, ne pas penser, surtout ne rien imaginer. En entrant dans la pièce blanche, au sous-sol, j'ai même risqué un peu d'humour. Mais personne n'a ri. En enfilant ses doigts de caoutchouc, le médecin a éternué. L'hiver n'était pas terminé. Il a dit, ce ne sera pas long. Il lui a piqué le bras. L'assistante lui a tendu une pince de métal, une petite pince inoffensive, au bout arrondi. Il a ouvert la serrure de chair. Il a glissé une sorte de sonde, une tête chercheuse. Elle s'est mise en marche. Le bruit de la pompe a envahi toute la pièce. Elle se répétait, surtout, surtout, surtout ne pas penser au rythme répétitif du système de compression. À bout de doute, à bout de souffle, elle avait tranché. Une petite mécanique exécutait son vœu. Desserre les fesses ou tu risques des courbatures. L'assistante lui tient la main, la rassure d'une pression des doigts ou d'un regard de réelle compassion. Elle sourit en remarquant les inutiles crispations de ses orteils. À la vaine protestation du corps, l'esprit a dû trancher et la machine exécute. Blancheur clinique, intervention médicale sans grand danger, l'horreur n'est pas ici. C'était bientôt la fin. Le médecin a retiré la pompe. Le bruit vorace et mouillé a cessé. Répit. Il a parachevé l'acte, il a raclé les parois. Je ne voulais pas penser, mais cette fois, ce bruit de métal sur une chair rebelle, pas encore éteinte, femme ouverte au creux de ses désirs, ou bête à l'écarissage, c'était du pareil au même. Puis, le médecin s'en est allé. L'assistante est restée au bord de l'évier, chargée d'instruments. En descendant de la table, j'ai vu sur le sol la trace d'un geste nerveux, rapide, dans une petite flaque brillante. C'était un jour rouge. Elle m'a raconté son rêve de la nuit d'avant. Une jeune femme accidentée de la route gisait sur un lit, le corps recouvert de bandelettes blanches. Seul émergeait son pubis et le cri de la fille réclamant son violon. Elle fut tellement impressionnée par la puissance du songe qu'elle se réveilla mouillée d'urine. 30 ans, pipi au lit. 30 ans, pipi de trouille. Elle m'a dit souffrir des silences imposés. Elle m'a dit ne plus supporter le brouillage des discours politiques, le jacassement des apothicaires confessionnels. Elle m'a dit
« Ma vie est à moi ».
Thank you.
Viviane est avec nous dans le studio ce soir pour compléter cette information des femmes belges sur l'avortement. Parce que nous avions envie évidemment de faire un petit tour d'horizon de la situation de l'avortement dans le monde et en Europe. Parce que bien sûr, les femmes belges n'ont pas le droit d'avorter. Qu'en est-il des autres femmes dans le monde? Alors Viviane, bien sûr qu'on a toutes fait aussi attention à ce qui s'est passé cet été aux États-Unis. On a vu que le droit à l'avortement est sérieusement menacé, même déjà complètement menacé dans certains États. Alors peut-être si tu peux nous rappeler qu'est-ce qu'on doit craindre et qu'est-ce qui définitivement n'existe plus comme droit pour les femmes aux États-Unis.
Oui, peut-être qu'il faut rappeler quand même que l'avortement, le droit à l'avortement de fait ou de droit, c'est-à-dire le fait qu'on puisse avorter, on a cru que c'était une partie gagnée. Les femmes se sont battues pour ce droit dans les années 70 et au cours des années 70, 73, 75 en France, en Italie, en Allemagne, on a cru que la partie était gagnée, que c'était bon. En fait, on se rend compte maintenant que là où il n'y avait pas vraiment de loi, la situation reste très floue. Et là où il y a la loi, cette loi est fortement attaquée. Ce qui s'est passé cet été aux États-Unis en est la preuve, puisque au début juillet, la Cour suprême des États-Unis a remis en cause le fameux arrêt Wade contre Roe, qui en 1973 avait de fait légalisé l'avortement aux États-Unis, puisqu'il avait obligé tous les États à suivre une seule direction, la direction fédérale, qui autorisait les femmes à pouvoir avorter. Alors, cet arrêt a été contesté par la Cour suprême, ce qui rend la possibilité, ce qui rend libre les 50 États américains de choisir leur législation. Et on sait très bien que certains États ont déjà pris des positions contre l'avortement. Cela d'ailleurs poussé par, avant le président Reagan et toute son administration, et maintenant aussi par l'administration Bush, qui a quand même fait campagne contre sa campagne présidentielle, tournait aussi contre l'avortement. Alors, pour l'instant, la situation n'a pas énormément changé aux États-Unis, si ce n'est que déjà le président Bush a poussé pour qu'on ne puisse plus avorter dans les hôpitaux publics et que les avortements